française.
Latina.
La franco-latina.
Peintre et sculpteur colombien, Cheo Cruz est, comme il le dit lui-même, sur le point de boucler la boucle. Celle qu'il a ouverte voici 20 ans pour partir en Europe, prendre de la distance et apprendre à mieux voir et apprécier la richesse culturelle de son pays. Tandis que dans sa tête et dans son cœur, ses valises semblent prêtes pour un retour plein d'envie et de projets, il exposait récemment à la galerie parisienne Nishido. C'est là qu'il a raconté à Carolina Labrador ce que l'art représente pour lui.
L'art, pour moi, c'est quelque chose déjà presque inné. Mes souvenirs de 300, je me baladais dans la fantaisie, tu vois. C'était déjà, j'avais un esprit assez rêveur, assez différent de mon frère. J'habitais dans les toits de la maison ou dans les arbres, tu vois. C'était mon univers, moi. Et déjà, là, mon comportement, c'était quelque chose de différent. Ma perception, c'était pas dans le monde par terre, c'était dans une autre dimension, c'était l'art. Je découvre ça à l'âge de 9 ans, quand mon père nous amène dans l'école des Beaux-Arts. Il nous inscrit à tous mes frères, on était 3 à l'époque, c'était les classes pour les enfants. C'est là que j'ai découvert exactement qu'est-ce que c'était l'art pour moi, tu vois.
C'est pas habituel en Colombie que les enfants sont inscrits dans des écoles des arts, mais quand même dans votre région, Cartagena, il y a une culture orale, une culture de la tradition, de la musique, il y a quelque chose dans l'ambiance, dans le langage qui est vraiment lié à la culture.
Oui, tu viens de dire, c'était pas vraiment la coutume d'envoyer les enfants surtout dans l'art plastique. C'était quelque chose assez élitiste déjà et pas considéré un métier. Si tu venais à l'école des Beaux-Arts, c'était plutôt pour te donner un vernis culturel. À l'époque, quand j'ai rentré à l'école des Beaux-Arts, il était vraiment en ruine. L'académie, c'était un état déplorable. Et mon père, simplement, il a eu toujours cet esprit progressiste. Il avait une vision assez intégrale de l'éducation. Alors, il nous a écrit dans des équipes de football, de baseball, dans l'école des Beaux-Arts, dans l'école de natation aussi. Alors, pour moi, j'ai trouvé que c'était la meilleure chose qu'a fait mon père de nous envoyer dans l'école des Beaux-Arts. Bah, après, quand il a vu que mon intérêt devenait très marqué pour l'art, j'ai commencé à perdre mon intérêt pour les études
conventionnelles.
Voilà. Et c'est là que mon père il a dit non, j'annule l'inscription, la matricule. Alors il a annulé ma matricule dans l'école des Beaux-Arts.
Il était victime de son propre
invention. Ouais.
Création.
Tout à fait, ouais, tout à fait.
Bon, mais vous avez passé aussi pour l'école de jésuite.
Oui.
Ça a influencé dans quelque chose votre carrière?
J'ai fait une partie de mes études dans les écoles de la Salle, Jean-Baptiste de la Salle. Et c'est des sortes de jésuites. C'était la meilleure école dans la ville. Par contre, à niveau d'éducation artistique, c'était nul. Il y avait à l'époque, déjà, bon, les jésuites ne s'étaient pas intéressés dans le développement de l'art chez les élèves. Les jésuites ont basé son modèle éducatif sur la science, surtout. En tout cas, à l'époque, aucun école avait un pensum académique en art bien développé. C'était un truc nul. Ils nous donnaient des cahiers pour reproduire simplement avec un réticule. Tu vois, on devait copier l'image dans
notre page.
Une espèce de calque, oui. Alors, c'était nul parce que tu apprenais rien de tout. Les profs qui nous donnaient cette matière, c'était des gens pas formés comme dans l'art plastique. Quoi.
Et comment vous avez réussi à désapprendre toutes ces mauvaises habitudes?
Heureusement, j'étais toujours quelqu'un assez subversif dans ma pensée. J'adorais l'école simplement parce qu'elle était placée sur un endroit magnifique. C'était des collines et on voyait la mer. En plus, l'école, les bâtiments, c'était construit avec les principes de la philosophie du Bauhaus. Tu vois, c'était une espèce d'immeuble hyper moderne, transparent. J'ai passé à regarder la forêt et la mer tout le temps. Bah, c'était pas vraiment l'école, ça m'a jamais captivé mon esprit, sauf la biologie, par exemple, l'histoire et la géographie. En art plastique, il n'y avait rien. Alors, j'ai jamais eu en formation, toi, pour déconstruire ça. Je devais construire vraiment que c'était mon voyage en Europe.
En Colombie, quelqu'un a vu votre carrière, quelqu'un a soutenu un peu votre talent?
Ma mère, d'une façon tacite. C'est elle, par exemple, à un moment donné, quand j'ai commencé à expérimenter sur la performance, à Cartagena, faire une performance, c'était un scandale à l'époque, tu vois, même dans n'importe où.
On parle de quelle époque?
On parle des années 70, 77, que encore la performance était quelque chose assez, surtout mes performances, parce que je travaille mon corps, c'est mon outil, mon expression, tu vois, et c'est mon corps nu complètement, avec des maquillages, avec des éléments réunis pour communiquer un message ou pour véhiculer un message.
Et comment vous avez vécu les différences remarquables qu'il y a en Cartagena avec la population, avec les niveaux, les classes? C'est vraiment, il y a deux univers.
Absolument, ça c'est quelque chose de triste, les souvenirs de ces phénomènes, surtout quand tu les regardes à distance et tu vois de tous les traumatismes et les préjugés raciaux et sociaux dans une société assez conservatrice et assez classiste. Malheureusement, on a un problème d'éducation et de mémoire historique. C'est le problème que nous a laissé la colonie. Tu vois, le racisme aujourd'hui, c'est un des fléaux les plus redoutables dans la société, parce que ça génère la violence. Et surtout dans la côte caribe, c'est une société métisse. 80% de la population sont des métisses. Sont des gens qui ont de sang indien, noir, et espagnol, ou n'importe quel autre européen. Bah, on est des métisses. Et le problème, c'est qu'on ne reconnaît pas ça encore. Tu vois, on ne peut pas avancer, on ne peut pas aller vers le futur si on n'accepte pas encore que notre peau s'est foncée, ou qu'on est typé, comme disent les Français ici.
Alors, c'est l'identité.
C'est l'identité, tout à fait. Des revendications et surtout des légitimations des droits de l'homme. Et aujourd'hui, le problème, c'était l'ignorance chez nous. Encore, les gens ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire la démocratie, la façon de pouvoir de revendiquer tes positions dans la société, tes droits, tu vois, civiques.
Quand vous parlez de métis, non?
Oui.
Je suis en face de votre tableau, de votre oui. Tableau, et c'est impressionnant comment tout ça que vous racontez, c'est lié vraiment à l'œuvre.
Et dans cette œuvre, bon, dans un seul registre, il existe plusieurs textes qu'on peut décoder. Bon, ça c'est une question d'interprétation aussi de le spectateur. Tu vois exactement dans les tableaux, il existe plusieurs textes et plusieurs lectures, quoi.
C'est comme un hybride de personnages, de rêves, de cet enfant qui n'est pas content avec son entourage, mais aussi je vois quelque chose d'écologique en même temps, oui. Comme une explosion de plein d'idées. Alors.
Absolument. Il y a toute cette association avec l'écologie, l'embryologie. Il y a une grande préoccupation pour la manipulation génétique aujourd'hui, tu vois, et surtout la malgérance de l'énergie nucléaire. Déjà, une femme a venu ici et a vu ce tableau, elle était un peu choquée parce qu'elle voyait un peu Tchernobyl, disait. Elle dit, bah, elle avait raison, parce que en fait, tu vois, la relation de cet embryon ou de cette créature qui sort de la Terre, elle porte un atome dans ses mains. Tu vois, c'est l'air atomique. C'est le plus grand danger que la Terre aujourd'hui peut avoir. Après Tchernobyl, on a déjà les résultats. aussi la symbolique de ce tableau. Comme vous voyez, c'est une fille. C'est la conscience cosmique, une nouvelle conscience qui doit se mettre en place, et ça sera féminin, parce que la femme, c'est elle qui continue la vie, c'est elle qui la produit. Et c'est la femme qui va gérer dans un monde de testostérone, un monde masculin qui nous a amené vers la guerre, vers l'autodestruction de notre environnement. Alors, moi, je conçois mon idée de la conscience cosmique, ça sera féminin. Ce sera un nouvel respect par la Terre, parce que la femme, elle est intimement, d'une façon intime, liée à la Terre, tu vois.
Il y a une fusion entre féminin et masculin dans un autre de votre tableau. Oui. Et je vois qu'on se passe un corps un peu masculin, mais en même temps, il y a le sexe féminin.
Oui, tout à fait. En fait, ce tableau, c'est un tableau qu'on appelle la Quebrada, parce que c'est au Colombie, dans une réserve naturelle dans la côte Caribe, le parc Tayrona. J'ai vécu pendant 4 jours. Et la force de cette nature, je vous dis, l'exprimer dans une image, dans un tableau. Et j'ai trouvé que c'était quelque chose androgyne, cette dualité qui existe dans la nature. Avant-hier, j'ai regardé un documentaire des petites créatures dans la mer en Indonésie, la plus grande biodiversité. Il y avait des hippocampes qui avaient la particularité qu'ils sont nés masculins, bah, ils deviennent féminins, ils se transforment dans la vie du masculin ou féminin. J'ai trouvé ça extraordinaire, les pouvoirs qu'a la nature, quoi. Bon, ça n'allait plus loin. Si on regarde les corps, quand on est encore dans l'état fœtal, notre sexualité, c'est encore dual. Il y a cette androgynité des phallus et de la vulve. Nous, des fois, on croit qu'on est les êtres supérieurs. Et ça, c'est le pire, les grandes erreurs. Aujourd'hui, on découvre qu'on est vraiment encore minéraux, végétaux, animaux. On est tellement liés à la nature, tu vois, qu'on continue dans l'échelle animale. Bon, on a l'intelligence. Bah, à quoi nous sert l'intelligence? Regarde le monde. On va vers une catastrophe. Je ne suis pas apocalyptique.
Plutôt une vision un peu plutôt négative?
Non, plutôt réaliste. Parce qu'aujourd'hui, on voit dans quelle situation l'état ambiental aujourd'hui. Non, je ne suis pas négatif, au contraire. Il faut aussi dire les choses pour que les gens comprennent la situation réelle, qu'on est dans une impasse très critique aujourd'hui.
J'ai l'impression que je suis dans un rêve futuriste du monde, mais en même temps, ça ne me fait pas peur quand je vois votre tableau, parce que c'est tellement beau, que c'est comme si on doit s'habituer au changement qu'on va avoir.
C'est drôle quand tu me parles de futurisme, que les donne en référence à niveau temporal déjà. En effet, c'est une projection vers une transformation. L'évolution de les espèces, jamais c'est fini. On va vers une transformation, soit cosmique aussi, à niveau galactique, à niveau physique. On est en plein transformation. Mais mon univers, c'est plutôt lié au chamanisme. Et dans le chamanisme, parce que j'ai eu plusieurs expériences avec la psilocybine surtout, en Islande, j'ai vécu en Islande. Et là, à travers de telles expériences, j'ai vécu dans un monde assez étrange, où toute la perception normale qu'on a, la description du monde, c'était une révélation. Au début, ça m'a fait peur, tu vois. C'est vrai que ça te choque, parce que c'est le côté obscur. Et l'autre côté de le rationnel, c'est la partie onirique, c'est la partie qu'on a peur de cette partie. C'est les rêves. C'est pas les cauchemars, parce que les cauchemars font partie de notre propre image dans la vie, quoi.
Qu'est-ce que vous avez projeté au futur dans votre moment artistique? Vous restez en France?
Pour le moment, oui, la France représente pour nous encore les mythes, quoi. Bah, je suis presque arrivé à boucler les boucles, parce que j'ai déjà presque démythifié tout la... Je suis en train de finir mon voyage. Il est plus initiatique. Maintenant, je retourne vers les sources.
Alors, Colombie?
Je crois. Depuis mon enfance, je crois que j'ai caressé ou j'ai rêvé sur un projet de m'installer dans le parc Tayrona, dans la Sierra Nevada de Santa Marta.
Je pense que ça rêve de beaucoup.
Beaucoup. Et que ça commence à se concrétiser parce que pas mal des amis qui ont déjà fait presque pareil comme moi.
Un parcours.
Oui, tous ces périples. On est habité à Londres, à Berlin. Aujourd'hui, sont de retour. Ils commencent à s'installer dans ces paradis, parce que c'est vrai, je crois que sont des jeunes avec une conscience plus développée qui vont à préserver cet endroit.
C'est un endroit qui maintenant ça devient de moins en moins public.
Oui, malheureusement, l'argent privé commence à investir dans la terre. Heureusement encore, on a le parc Tayrona, que c'est une réserve naturelle, malgré notre politique. Je ne suis pas trop politique, mais bon, il faut dire les choses. Aujourd'hui, notre politique, notre administration a donné des concessions à des Français. Et cet endroit qui doit être public, ouvert à tout le monde, commence à devenir un sujet de business, spécialement pour les Américains et spécialement pour un public plus riche. Alors, j'ai trouvé inconcevable de payer un natif, doit payer 8000 pesos, un truc comme ça, pour rentrer dans un endroit que c'est public, quoi.
En plus que c'est sacré pour les natifs.
Tout à fait. La légitimité de cette terre appartient à les Indiens. Et aujourd'hui, on les a déplacés de plus en plus. Bon, après tous ces phénomènes aussi de le paramilitaire, ça crée des conflits assez énormes de déplacements. Pas simplement les paysans, surtout les Indiens. Et ça, c'est triste, parce que les Indiens, ils n'ont aucun recours en face de la loi. Et ça, c'est vraiment désolant,
lamentable.
Quoi, ou lamentable. Ouais.
Alors, on retourne aux sources, mais pour apprendre à ces petits enfants qui rêvent dans l'étoile de ces maisons à peindre.
J'ai pas mal de projets, oui, de développer avec surtout les communautés populaires. Quand j'ai rentré au Colombie, après 3 ans d'études en Espagne et à Londres, on a créé une école de beaux-arts pour les enfants en rentrant d'Europe. On a travaillé avec des enfants des quartiers très, très chauds.
Comme Bolivar?
Non, ou La Herrera. C'est un des quartiers les plus chauds avec une population assez démunie et black. Et nous, on a développé avec des amis qui habitaient dans les quartiers, qui avaient un esprit magnifique, ces gens-là. Ces gens avaient la volonté encore pour créer une association et monter un petit bibliothèque. J'ai trouvé ça extraordinaire. Alors tout de suite, à l'époque, j'étais marié avec un Islandaise. Et on a tout de suite, on s'est branché sous son action, voilà, sous son projet. Et on a donné notre travail. Et c'était un des travaux les plus satisfaisants, tu vois. On a créé des exercices pédagogiques d'approximation à la nature et aux couleurs. On ramassait des feuilles et après on les peignait. Et on faisait un choix de couleurs pour apprendre les couleurs primaires. Tu vois, avec les mélanges del jaune, des bleus, ça donne vert. Et comme ça, on voyait les couleurs directement sur la nature. C'était un exercice fantastique, surtout la capacité de les enfants pour la musique, pour la danse, pour la peinture. Je t'assure, c'est là qu'on voit la richesse humaine. C'est là qu'aussi, je me demande pourquoi on ne donne pas les possibilités, les moyens.
Bon, mais 30 ans de travail en plus. Bon,
oui.
30 ans, on va dire, parce que vous avez commencé trop petit enfant.
Oui.
Ce parcours que vous avez fait, l'Europe et tout ça, ce rêve un peu européen de la culture et tout. Et cette envie de retourner à votre pays, on doit faire tout ce parcours pour se rendre compte qu'il y a beaucoup à faire en Amérique latine.
Absolument, je suis persuadée parce que chez nous, on traîne un préjugé culturel. Malheureusement, on est produit d'un processus de colonisation. Alors, chez nous, il persiste la non-pertenance. On se croit qu'on est soit anglo-américain ou soit européen. Par contre, notre passé et notre richesse et l'héritage, je parle indien ou africain, on néglige cette histoire, tu vois. Ça, c'est une histoire qui ne nous appartient pas. Je trouve ça triste, tu vois. Et évidemment, l'Europe, nous, représentait les modèles comme on voulait, comme nous, vous voulez être.
Mais quand même, vous avez appris beaucoup de l'Europe.
Bien évidemment, oui. Pour nous, bon, existe des choses assez intéressantes. Bah, en effet, on devait faire les boucles, c'est tout ce parcours pour, en tout cas, dans mon cas très petit, j'étais conscient aussi de la richesse qu'on avait chez nous. Ça, c'était quelque chose que j'étais fasciné. Évidemment, c'était avec l'information et l'éducation que j'ai commencé à donner des valeurs à notre tradition et notre passé indien surtout. Le précolombien, quand j'ai vu pour première fois le musée de l'or, j'ai compris la richesse qu'on avait et la richesse et le raffinement que notre indien en avait acquis. Tu vois, ça, on n'a pas besoin d'aller au Louvre pour comparer la beauté et les raffinements techniques et esthétiques qu'il y avait dans cette pièce.
Française.
Latina.
La franco-latina.